Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec toujours l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste Midi Olympique. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes et bonjour à tous. Poulain Raffut, vous savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et surtout en travers. Au menu aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous serons en compagnie de l'ancien troisième ligne international italien Mauro Bergamasco, 106 sélections avec la Squadra Azzurra, mais aussi une des légendes du Stade français de la grande époque. On parlera évidemment avec Mauro de ce premier match du tournoi destination entre l'Italie et la France, mais pas seulement. Enfin, dans la troisième partie, place au débrief façon Poulain Raffut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Avast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Poulain Raffut, saison 6, épisode 22. C'est parti. Allez, première partie dans Poulain Raffut. Raph, cette semaine, on va parler du tournoi destination, peut-être même du tournoi des cinq nations et des souvenirs d'enfance, des parfums d'antan de cette compétition si prestigieuse. C'est bien ça, Raph ?
Oui, Arnaud, je pense que ça va te parler, ça va vous parler, mesdames et messieurs. Le tournoi arrive, comme tu l'as dit, et je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de repenser à ma journée type en Picardie, à Noyers-Saint-Martin, à l'approche des rencontres du tournoi des Cinq Nations à 15h le samedi. Toujours le même rituel. Au réveil, alors que mes sœurs ronquent, je mets mon cycliste rouge qui colle au rouleau et au rotule. Je remonte mes chaussettes blanches et rouges de Beauvais 15 Rugby Club. J'ajuste le maillot bien trop large en coton délavé de l'équipe de France par les rencontres passées depuis 10 ans sur mon canapé face à ma télé à touche. J'attrape mes crampons noirs et jaunes, lustrés pour l'occasion, et je descends discrètement, une bonne demi-heure pour ne pas faire grincer les 19 marches sans réveiller mes parents, et je sors dans mon jardin, dans mon pré, sur mon terrain. Il fait presque encore nuit, me voilà parti pour l'échauffement. Ça caille, mes trois roulés boulés, une percue à mon marronnier et deux, trois pneus soulevés. Le tour est joué, je suis prêt et je suis bouillant. C'est mon Parc des Princes, c'est ma finale. Mes poteaux sont d'un côté deux grands pommiers et de l'autre deux cheminées, les deux cheminées de ma maison. J'envoie des grands coups de latte à travers le jardin, faisant couiner le cuir que je martyrise à chaque coup de pied. En retour, cet enfoiré de ballon, Wallaby de son prénom, de tout son cuir vêtu, prend un malin plaisir à se rouler dans la rosée, prenant au passage un bon kilo et demi de poids à chaque roulade. Une entorse et 100 coups de pied plus tard, je rentre rougi par le froid et la sueur et me cale une collation à base de carbonara, attendant, non sans une certaine fébrilité mêlée d'excitation, les hymnes et les compositions. À 14h55, j'ai envie de pisser, comme juste avant un match, pas le temps d'aller aux chiottes, je pisse sur la vigne vierge, debout sur l'appui de fenêtre, pour pas louper une miette de la présentation des équipes à Twickenham, au Parc des Princes, à Lansdowne Road, à l'Arms Park ou à Croke Park. Je me cale à côté de la cheminée, mon père à mes côtés et la porte du salon bien fermée pour éviter toute intrusion canine ou humaine. Ça y est, les hymnes et la caméra qui fait défiler les visages, la tronche de Lynn Jenkins, les deux frangins Underwood, les cannes de Gavin Hastings, la fureur de Neil Back, c'est parti pour deux heures de bonheur. Ça peut paraître vieux con, mais la cabane est tombée sur le chien quand une équipe prenait la danse et qui, sur une seconde mi-temps, héroïque, permettait au commentateur Pierre Albaladejo de scander que le chien n'est pas mort. Ce con de cochon encore dans le maïs et les pénalités de Cambera-Véro, les bouchons de Richard Castel, les passes de Carbonneau, les charges de Benazi, les Assitoaedon de Castagnel, les grands travers de Saint-André qui trouvaient toujours une brèche. Et puis, au coup de sifflet final, t'as juste hâte d'être un mardi soir sur ton terrain boueux en février-mars avec tes potes et Robert, ton sac de plaquage confectionné de trois coussins cousus humains, et surtout avec cette folle envie de faire pareil que tes idoles comme ces relances de ton héros Jean-Luc Sadourny. J'ai la chance, l'immense honneur et la joie d'avoir marqué un essai au Parc des Princes lors d'un quart de finale de Coupe d'Europe en 2005, et c'est bizarre, mais j'ai cherché l'espace d'un instant, s'il n'y avait pas un cochon, s'il n'y avait pas un chien ou une cabane cachée, ou si je n'apercevais pas, Jean-Luc, au loin, non, c'est pourtant Domi et Steve Gla qui m'ont pris dans leurs bras ce jour-là, alors que je les regardais deux ans plus tôt, encore assis sur mon canapé. Au beau milieu du Parc des Princes, ce jour-là, j'ai alors replongé un temps dans mon jardin avec mes pommiers et mes cheminées, et c'était bon. Très bon tournoi à toutes et à tous.
Allez, deuxième partie dans Poule à Raffut. Nous avons la chance avec nous de recevoir l'ancien troisième ligne de la Squadra Azzurra, Mauro Bergamasco, une des légendes du Stade français. Deux titres de champion de France, hein, Mauro, avec le club de la capitale. Un joueur que tu as eu la chance de côtoyer durant quelques années, Raph, et avec qui tu as partagé quelques belles heures du club de la capitale et à qui tu avais aujourd'hui envie de rendre un petit hommage.
Bah oui, juste avant Italie-France, c'était normal de se tourner vers un Italien et qui de mieux pour représenter l'Italie que Mauro ou Mirko. Mais bon, moi j'ai préféré à Mauro. Aucune préférence entre les deux, mais bon, il a répondu à mon appel et je te remercie encore Mauro. Moi je voulais déjà savoir comment tu allais déjà. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tes nouvelles. Hein. Je te rappelle que tu es parti en 2011 du Stade français, donc de France.
Voilà,
une carrière
exactement.
En 2015, mais déjà comment ça va Mauro?
Écoute, ça va bien. Aujourd'hui, pas de rugby, au moins pas de rugby pratiqué. Enfin... Donc aujourd'hui, je suis un formateur, je travaille avec les entreprises, je suis mental coach. Donc je travaille avec les personnes, voilà, qu'ils soient professionnels ou personnes qui ont besoin de accélérer le changement personnel, je suis à dispo. Donc aujourd'hui, je travaille avec les personnes, quoi. Donc j'aime partager des moments avec les gens, les personnes. Et donc aujourd'hui, on va dire que je continue à faire ce que je faisais avant sur le terrain, je le fais aujourd'hui en dehors du terrain. Voilà.
Ouais, enfin, tu ne leur mets pas des grandes cartouches quand même, rassure-moi, quoi. Je pense que t'es, hein,
t'es du... Bon, je garde quand même quelques vidéos pour calmer les gens un petit peu. Je veux dire, j'étais ça au moins. Rappelez-vous.
C'est du développement personnel, alors hein. Tu peux un peu appeler ça du développement personnel, alors coach de vie.
Absolument. Absolument. Moi, j'ai commencé à travailler un peu sur le poste carrière sportif à l'entour de 2014, quand j'ai décidé un an et demi à l'avance d'arrêter ma carrière. Donc, j'avais annoncé que j'aurais terminé 2015, la saison 2015, après la Coupe du Monde. Donc, j'ai eu un peu l'audace, un peu la chance aussi d'y aller à la Coupe du Monde 2015, ma cinquième Coupe du Monde. Et derrière ça, je vais préparer le lendemain. C'est clair que le lendemain, c'est déclaré comme, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc, j'ai resoulevé les manches et j'ai recommencé à travailler. Donc, j'ai commencé comme un public speaker. Donc, ce que je faisais déjà...
conférencier en France, conférencier.
Voilà, un conférencier, ouais. Exactement. J'étais sollicité surtout pour des témoignances relatives à ma carrière sportive. Et petit à petit, c'est devenu quelque chose d'un peu plus important avec des contenus de formation, contenus relationnels. Donc aujourd'hui, bien évidemment, je travaille sur les performances des gens et des entreprises à travers le développement des relations humaines.
Mais on fait pareil, mais je te dis qu'on fait pareil, Mauro. On va s'appeler en dehors et on va discuter parce qu'en plus, ton français est encore très, très
avec
bon
plaisir.
Et on va pouvoir te faire intervenir en France, n'est-ce pas?
Je n'ai pas beaucoup de possibilités de pratiquer, effectivement, mais 8 ans à Paris, ça n'oublie pas facilement. Donc,
ouais.
Absolument. Avec plaisir,
Raph. Avant de poursuivre vos échanges, messieurs, je vous propose, Raph, que tu nous dresses le portrait de Mauro Bergamasco façon Poulain Raffut. C'est maintenant.
Oui, Mauro, donc comme je disais, je suis ravi de partager ce moment avec toi car tu fais partie de ce groupe avec ton frangin Mirko, de ces mecs un peu cintrés, un peu fous, un peu jobards, on va dire. Il faut dire que toi, tu étais complètement cintré sur le terrain. Je parle vraiment que sur le terrain. Tu courais partout, tu plaquais à tour de bras et tu avais dans ce regard une folie plus proche du diable de Tasmanie que du Bergamasco, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas.
Hein, mais on va dire que la coiffure, c'était un peu similaire. Hein.
Ouais, il y avait quelque chose, plus sérieusement, moi, tu m'as fait penser, tu vois, Mika Balade, vous aviez cette même folie, tu vois, tu te souviens de Mika, vous aviez ce côté un peu dangereux, tu vois, tu arrivais à poser le cerveau juste avant de rentrer sur le terrain et j'adorais. Plus sérieusement, Mauro, c'est un troisième ligne comme son papa, Arturo, c'est pas doux, c'est Trévise, c'est deux titres de champion d'Italie, c'est le Stade français pendant 8 ans, c'est deux titres de champion de France à la clé, et surtout, 105 ou 106 sélections, 106 ?
106.
Donc on compte la 106e quand tu as été, et on va en parler justement... à la mêlée, hein, on va en parler. Hein, et tu sais qu'on va en parler, bien entendu. 13 tournois, 5 Coupes du Monde, on parle beaucoup quand le tournoi arrive de Sergio, de Diego. Mais moi, personnellement, voilà, les légendes, ces frères, les frères Bergamasco, ce côté sanguin, cette générosité, ce caractère italien. Bref, Mauro, c'est une légende. mais pas que en Italie. Et je suis ravi de te retrouver quelques années après nos chevauchées. Toi, tu n'es pas chauve et cette belle aventure, vite ensemble, c'est cadeau. Tu imagines bien que si on vient vers toi aujourd'hui avant de parler justement de ton parcours au Stade français, de ton présent, on en a parlé au niveau du boulot, c'est avant tout pour l'ouverture du tournoi Destination, l'Italie contre la France ce dimanche. Tu suis le rugby à Télin, j'imagine, et dis-nous un petit peu où il en est ce rugby italien selon toi.
Alors, c'est un peu particulier parce qu'il faudrait un peu focaliser différentes domaines, on va dire. L'Italie, bon, c'est un rugby qui est en train toujours de se développer. Donc, on a besoin de beaucoup de temps, surtout beaucoup de programmation, beaucoup de projetation aussi autour du rugby parce que après l'arrivée de ton destination dans l'année 2000, il y a eu un gros parcours d'inscription, surtout des gamins. Et puis, la nécessité, le besoin, c'est d'organiser, de former les éducateurs, former les entraîneurs. Moi, j'ai fait la différence entre éducateur et entraîneur. Moi, je suis l'éducateur et je travaille dans le rugby aujourd'hui à former les éducateurs, éduquer les éducateurs pour éduquer les enfants. Parce que le rugby, le sport en général, le rugby en particulier, pour moi, reste une discipline capable de donner des instruments aux plus jeunes pour créer leur relation, pour créer leur futur, pour assumer aussi des comportements actifs pour la vie. Et ça, pour moi, c'est important. Depuis 12 ans, je propose aux jeunes depuis 8 et 15 ans de parcours d'été, une semaine, à travers le rugby. Aujourd'hui, depuis quelques années, à travers d'autres sports aussi, mais des parcours formatifs, éducatifs. Donc, ils font du sport 2 fois par jour. Et donc, sous 6 jours, c'est 12 entraînements. Mais c'est clair que c'est beaucoup par rapport à l'activité qu'ils font normalement dans la saison. Mais c'est quelque chose de très, très, très serré aussi avec des moments formatifs ou avec de l'amusement, bien évidemment, mais avec un thème principal qui va être déroulé soit sur le terrain, soit sur les bancs et sous la pelouse quand on se retrouve pour tchatcher un peu sur différents. Et les enfants, les gamins, les jeunes, ils sont libres de s'exprimer et de commencer à créer des nouveaux, on va dire, couloirs de communication avec leur ami, leur nouveau ami. Et voilà. Revenons à l'Italie. On a besoin encore plus de projection. Il y a pas mal de projets qui sont partis cette année depuis le nouveau conseil, le nouveau entourage qui gère un peu la fédération. C'est clair ce qui changerait vraiment tous les résultats ou partiellement on va dire le développement du rugby en Italie tant que sport pour tous. C'est le changement de mentalité de la part des éducateurs, des entraîneurs, de penser pas que à la victoire, mais c'est de penser le fait qu'on a la possibilité de donner quelque chose.
Alors justement, Mauro, pour revenir un peu notamment au développement du rugby italien, on a bien saisi le sens de ton propos, c'est qu'il faut un changement de mentalité. On a le sentiment que le rugby italien a parfois un peu stagné ces dernières années, et pourtant, au mois de novembre, l'Italie a battu l'Australie pour la première fois de son histoire. Raconte-nous un peu comment tu as vécu ce moment, toi, personnellement.
Mais assis à table avec des bières et du poulet rôti, donc c'est très, très, très top. Non, mais bon, alors oui, c'est vrai que dans les derniers 20 ans, on va dire 20 années, ça a stagné parfois, et c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, il y a un nombre de joueurs de bon niveau qui a compris que le niveau leur demande. Et par rapport à ça, aussi grâce aux deux super clubs, Trévise et Zèbre. Trévise, de façon majeure, vu le projet qu'ils amènent depuis 10 ans, ils ont porté les joueurs à apprendre vraiment ce qu'ils ont besoin et la qualité du travail qui leur porte à la performance et peut-être à la victoire le samedi. Et le groupe qui compose l'équipe d'Italie aujourd'hui, c'est un groupe très jeune, c'est un groupe qui a aussi un nombre de joueurs qui jouent à l'étranger, et ça, c'est un point important. Mais c'est vrai aussi que tous les autres qui jouent en Italie, ont bien compris, ils ont bien devant leurs yeux l'image que leur niveau leur demande d'être. Et ils le font avec un très bon résultat. C'est clair qu'après, ce qui fait la différence réellement, et ce que j'ai vu du premier impact quand je suis arrivé à Paris la première fois en France, c'est la continuité, donc l'habitude à haut niveau prolongée sur le temps. Et ça, c'est vraiment la différence. Moi, c'est on va dire, mon souhait que la bonne vague qui amène l'Italie à gagner contre l'Australie en mois de novembre amène l'Italie à disputer un très bon tournoi destination, bien évidemment. Et quoi, le meilleur tournoi destination en débutant avec la France, contre la France, je veux
Alors
dire,
justement,
la chose la meilleure.
Mauro, un pronostic.
Effectivement.
Est-ce que la France doit craindre justement cette équipe d'Italie qui voilà qui a aussi enchaîné des bons résultats. Il y a eu aussi l'Afrique du Sud, enfin, même si c'est éparse, hein, mais il y a les résultats aussi qui sont là. Donc est-ce que la France doit craindre ce match ce week-end?
Écoute, je parle d'une proposition que c'est que la France, dans les dernières années, a vraiment touché un grand niveau. Aujourd'hui, elle est en train vraiment de travailler sur des performances vraiment d'un niveau. Derrière à ça, c'est clair que craindre, si, je pense qu'il n'y a pas d'équipe qu'aujourd'hui on ne peut pas craindre de certaines façons. Dans le sens que l'Italie a montré le mois de novembre que même si l'Australie, on peut dire ce qu'on veut, l'Australie, ce n'était pas toute la première équipe, ce n'était pas la meilleure Australie qu'on a vue dans les dernières années, mais c'est le fait que la chance que tu as, la possibilité que tu as, tu l'as vécue et tu l'as amenée à la maison. Tu as gagné un match, pas parce que les autres ils n'ont pas joué ou pas parce que les autres. Ils sont venus faire une vacances en Italie, mais parce que dans la possibilité d'avoir en Australie, peut-être, et j'ai dit peut-être pas au 100%, on a profité de l'occasion pour amener à la maison une victoire. Donc, c'est ça, craindre d'une certaine façon, de dire, prends pas cette équipe comme la dernière du tournoi en disant on débute un légèreté. Voilà. Après, je répète encore une fois, mais l'Italie et la France, aujourd'hui, c'est une équipe qui est en train de travailler pour gagner la Coupe du Monde. Et voilà. Et donc l'Italie, bien évidemment, a des objectifs d'y aller plus en avance la Coupe du Monde possible, mais travaillons match après match. Après, aujourd'hui, je n'ai pas parlé avec Kieran Tonelli, donc je ne connais pas toute la stratégie qui amène l'Italie à la Coupe du Monde, mais je pense que l'Italie peut, encore une fois, parce que sur les dernières Coupes du Monde, je pense qu'on a eu vraiment deux possibilités de faire bien. Cette année, peut-être c'est la troisième. Cette année, peut-être c'est la troisième, et ont la possibilité d'amener de satisfaction, hein, enfin. En fait, chez eux. Donc, on ne la prend pas à la légère, voilà, le premier match. Moi, je pense que la France ne doit pas la prendre à la légère en même temps, parce que physiquement, je pense que l'Italie aujourd'hui, elle est performante. Et je pense que s'il y a de l'espace, aujourd'hui, il y a la capacité de le prendre. Donc, je
Une question encore, Mauro, sur ce tournoi destination. En France, les gens n'arrêtent pas de dire que l'équipe de France est favorite pour gagner ce tournoi destination, pour gagner la Coupe du Monde. Tout le monde voit l'équipe de France au-dessus. Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé en Italie quand on regarde, par exemple, les performances de l'Irlande, l'Angleterre peut-être un cran en dessous par rapport à ce qui a été fait par le passé? Mais on a l'impression que l'Irlande, qui est aujourd'hui numéro un mondial, peut aussi revendiquer ce statut de favori. Qu'est-ce qu'on en pense en Italie?
Je pense que la France est une des favorites, bien évidemment, de ces nations. Je pense, comme tu as déjà dit, l'Irlande aussi a montré d'avoir les cartes de pouvoir ambir au titre, bien évidemment. De toute façon, vu les derniers matchs au général, je crois que la France a C'est l'équipe qui peut perdre aujourd'hui le tournoi destination. Voilà.
On va parler un petit peu du Stade français. Est-ce que
Ouais.
tu suis déjà encore les résultats du club? Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une sorte de renouveau actuellement, voilà, ces dernières années? Bon, il y a eu l'arrivée de Heinicke Meyer, je ne sais pas si tu as suivi. Et puis derrière, Thomas Lombard qui arrive en tant que DG. Gonzalo Quesada, que tu connais et avec qui on a joué au Stade
Bien
français, qui fait un
sûr.
sacré boulot avec l'Argentine et aujourd'hui avec le Stade. Est-ce que tu suis, toi, le Stade? Est-ce que tu sens un renouveau?
Je suis dans le sens que bon, je reçois les newsletters déjà qui m'arrivent tous les semaines. Non, je suis un peu les résultats. Je ne suis pas vraiment accro à fond sur le championnat français. Oui, tout nouveau parce qu'en fait, si je regarde la liste des joueurs, je crois que sur 45 joueurs, je suis fatigué de trouver quelqu'un que je connais vraiment.
Si, mais ils sont entraîneurs maintenant.
Oui, exactement. Maintenant, j'ai dit la liste des joueurs, bien évidemment. Aujourd'hui, entraîneur, parce que bon, nous, on pourrait l'être aussi chez Araf. Et non, je crois, j'ai 100, je ne connais pas, parce que je suis pas passé encore à Paris pour voir un peu comment ça se passe, comment ça sentir un peu l'air, mais j'ai 100 un peu comme si c'était un peu différent de l'époque. Comment dire? Moi, j'ai vécu le Stade comme un club très professionnel, mais en même temps très humain. Il y avait de l'humanité à l'intérieur. Il n'y avait pas que la performance. La performance, c'était un objectif très important et très haut. Mais derrière à ça, il y avait la capacité aussi des relations. Il y avait la capacité aussi de vivre des bons moments en dehors du terrain ensemble. Et ça, c'est ce que j'ai aimé profondément de Paris. Aujourd'hui, même en Italie, il me dit, vous étiez à porte fermée pendant les entraînements, et tu dis non, il y avait des gens qui venaient voir les entraînements. Et en plus, ce qui était génial, c'était qu'on s'arrêtait à la fin de l'entraînement à tchatcher un peu avec les gens, un quart d'heure, 20 minutes. Et ça nous amenait beaucoup plus proche des supporters, mais surtout empêcher le fait d'avoir les supporters qui sautaient sur les joueurs sur la route, en passant, mais je me rappelle en plus avec les motos, voilà, ils passaient le stade, et voilà, c'était ça la convivialité de Paris sur le Stade français. Et ça, je pense que c'était quelque chose de vraiment génial. Je connais pas vraiment bien les autres, on va dire, situations dans les autres clubs, on va dire à notre époque, bon, Raph, mais en écoutant, en parlant avec d'autres joueurs qui jouaient avec d'autres maillots, moi je trouvais cette différence. À Paris, il y avait cette humanité, cette capacité aussi relationnelle, et je pense que c'était la puissance aussi d'une équipe qui pouvait gagner quand elle voulait gagner. On va dire, le dit que j'ai aimé, je le ramène un peu en italien parfois, je dis, que j'ai écouté quand j'étais à Paris, c'était le stade, l'équipe, le stade, le joueur, ils ont les clés de leur camion. Ça veut dire que le joueur pouvait vraiment changer tout le terrain, en dehors du fait qu'il y avait un gros entraîneur à l'extérieur, parce qu'on a eu différents, mais vraiment le joueur sous le terrain, en regardant sous les yeux, en décidant de vouloir le faire, pouvait vraiment changer les choses du terrain.
Quels sont les joueurs Mauro qui t'ont le plus marqué lors de ton passage au Stade français?
Alors, écoute, il faudrait un peu de temps parce qu'en fait, quand on est arrivé au Stade français, mon père, bon, il y avait pratiquement l'équipe de France des différentes dernières années. Il y avait l'Argentine, bien évidemment, il y avait une partie d'Italie, il y avait une partie d'Afrique du Sud après rentrer au niveau français, voire Brian Liebenberg. Mais donc, il y avait une équipe, quoi. Il y avait une équipe de 35 joueurs où les premières 25 pouvaient faire n'importe quoi. Et donc, ça, c'était ce que j'ai aimé. Mais ce que j'ai aimé en plus, c'est de voir des joueurs qui, peut-être que le monde du rugby, je parle le français, bien évidemment, peut-être pour des raisons physiques ou d'autres raisons, peut-être qu'ils ont un peu lâché, mais en dehors de leur niveau, on va dire. Mais je me rappelle que je pourrais même faire des noms aujourd'hui, mais c'est des joueurs qui, les avoir sur le terrain ou les avoir pas, c'était différent. Moi, je me rappelle Momo Blin, entre tout, par exemple, c'était un très bon pote. Et lui, physiquement, il était pas choisi par rapport aux autres, mais l'avoir sur le terrain, on ne peut pas l'avoir sur le terrain pour sa capacité de leader, pour sa capacité aussi de traîner les joueurs avec lui. C'est quelqu'un que sur le terrain, c'était difficile de ne pas l'avoir. Mais je te dis des noms plus connus. Bibi Radu, sur la partie finale de sa carrière, hein, je me rappelle quand on rigolait quand on était à la salle de gym, c'était 100 kilos, difficile, mais à l'avoir sur le terrain, c'était pas que 100 kilos, c'était comme soulever 300 kilos, dans le sens que c'était quelqu'un d'impactant, c'était quelqu'un qui était dedans, qui avait du charisme. C'était une équipe charismatique à 100%. Et tous les joueurs qui sont rentrés sur le terrain, Raph, tu te rappelles, c'était du charisme. C'était un bataillon qui rentrait, qui pouvait décider de gagner ou perdre un match.
Mais comme tu l'as dit, c'était enfin, je pense qu'on a joué avec 7 ou 8 nationalités complètement différentes où tout le monde faisait l'effort de parler français. Le fait de ne pas être connu dans Paris, je le dis toujours, à part dans le Marais pour les calendriers, d'aller s'entraîner un peu à droite
Ouais.
à gauche, c'est ça qui était fort en fait aussi. Et c'est le fait aussi que Max, quand tu allais re-signer avec lui, te disait, mais moi j'ai 300 mecs qui veulent signer ici, donc tu jouais pas pour l'oseille aussi. Enfin, et alors qu'à l'extérieur, tout le monde pensait que tu touchais deux fois plus qu'ailleurs, ce qui était complètement
Ah
faux.
ouais.
Il y avait une osmose comme tu en parlais. Est-ce qu'il y a une anecdote en particulier que tu n'as jamais racontée et que tu vas nous raconter ici? Un souvenir en particulier
Ce que je n'ai pas raconté, je ne peux pas le raconter, Raph.
On est tous les trois, hein, il n'y a personne. Bien essayé, Raph.
Ouais,
Oh, le
c'est
joueur le
ça,
plus méchant, alors que tu es rencontré au stade ou en face? Mais plus au stade.
ouais. Plus méchant. Alors, des
À
méchants,
part toi, à
méchants.
part toi, parce que je te dis, tu avais vraiment cette capacité de poser le cerveau sur le terrain et de te transformer. Donc,
Ouais, mais c'était pas de la méchanceté non plus. C'était
de la folie.
de la folie, voilà. Non, mais bon, écoute, sur la folie, on va rigoler tout ça, mais je me rappelle que mon moulin, il m'appelait au plus en tête, justement, en courant
Au
un
poulet
peu,
sans
parce que
tête, ouais.
c'était un peu précurseur au niveau de troisième ligne, parce que je commençais en 98 avec l'équipe d'Italie, mais je faisais peut-être 90 kilos. À l'époque, donc la différence sur le reste, c'est que 80 minutes, je pourrais quand même courir plus ou moins à la même intensité. Et donc, j'amenais ça aussi au stade, qui était très organisé. Il y avait une organisation que peut-être j'avais reconnue en équipe d'Italie, peut-être, mais pas vraiment dans le club. Mais très vite, c'était quelque chose de très avancé avant que j'arrive à Paris, bien évidemment. Mais voilà, donc c'était pas question, je pense, il n'y avait pas des vrais méchants, mais il y avait des joueurs cyniques, quoi. Il y avait des joueurs qui, quand ils avaient à amener à la maison.
Moi, Pablo Lemoine et le deuxième ligne, la Camacho, quand même. Et
Alors écoute,
Uruguayen, et
c'était.
comment il s'appelait, un deuxième bar qui était fou, qui était presque interdit dans son pays. Souviens-toi, moi je l'ai vu, j'ai vu des mecs sortir. Je m'embrouille avec des mecs sur les Champs-Élysées. Six mecs face à moi, là je vois une Volvo faire demi-tour sur les Champs-Élysées. Alors c'était pas sur le terrain, hein, mais ils étaient tout aussi fous sur le terrain. Et là je vois Pablo Lemoine et comment il s'appelle? Sortir de la voiture, je dis c'est bon les gars, je crains plus rien. J'ai vu des hommes voler.
C'était l'autre deuxième ligne, l'autre deuxième ligne de Uruguay.
Oui.
Pareil. Comme... Oh, voilà. Si, ouais,
Je
là,
l'ai
je me souviens
retrouvé, mais
pas.
voilà, il y
Ouais,
avait
mais...
des gens fous. Ouais.
ouais. Non, oui. Alors, j'ai dit, c'était pas question de méchanceté, mais c'était vraiment quelque chose de. Ils étaient durs. Voilà. Ils étaient durs. Voilà. Même dans l'expression, même dans la physicité, c'était dur, quoi. Mais pour dire, dans la gueule, on dirait pas que c'était un méchant, mais Mike James, c'était physiquement incroyable et c'était quelqu'un qui avait la capacité de tourner aussi l'humeur de l'équipe, hein, en faisant un sourire, en souriant à quelqu'un ou en disant une bêtise. Parce que souvent, c'était des bêtises pour galvaniser avec l'équipe. Je parle d'entraînement, bien évidemment, pas de match. Mais il y avait des joueurs comme ça, mais Bibi Radu, c'était quelqu'un qui ne rigolait pas sur le terrain, hein, bien évidemment. Attends, je pourrais dire à toute l'équipe, même les remplaçants et même celui qui était en tribune, parce que tout le monde avait quelque chose de particulier qui amenait sur le terrain et qui faisait que la chimie avec les autres amenait quelque chose de très important. Moi, je l'ai vécu vraiment comme ça, hein, parce qu'on va partir dans la première ligne. On avait, je m'appelle, entre. Sylvain Marconnet et Peter Desvilliers, je veux dire, je suis arrivé et il y avait la première ligne de l'équipe de France. Après, c'était l'idée par Momo Blin, ou c'était l'idée pour quelqu'un d'autre, mais c'était d'avant, il n'y avait pas l'histoire. Après, il y avait comment ça s'appelle, Sylvain, il faisait son truc au joueur en face pour le faire bouger. Il faisait tous les petits jouets. Donc voilà, mais derrière ça, il pouvait rigoler pendant des demi-heures, même au sifflet au début de match, mais après, sous terrain, c'est autre chose, quoi. Donc c'était
Justement,
vraiment.
Mauro, tu parles de Sylvain Marconnet. Il y avait quand même une sacrée ambiance à cette époque du Stade français.
C'est vrai.
C'était qui le joueur le plus drôle?
Ah, il y en a plus qu'un, hein. Il y en a plusieurs. À la vérité,
Est-ce
quand
qu'il y
tu
en
vois
avait un qui te
ensemble,
faisait mourir de
c'est
rire, par
vraiment
exemple?
difficile à gérer. Pardon?
Est-ce qu'il y en avait un qui te faisait mourir de rire ou est-ce que tu as souvenir d'une situation où tu avais pris un fou rire?
Non, mais bon, bah, quand il y avait qui s'était attaché entre Sylvain et Momo, c'était la folie. Hein. Il était capable d'amener des monologues au débat pendant des demi-heures. Et personne ne pouvait rentrer parce que de toute façon, ils avaient leur moyen de communication et c'était juste à écouter et rigoler, quoi. Parce que même moi, au départ, moi, je suis arrivé en France, que je ne connaissais pas du tout le français, au bout de quelques mois, j'avais les larmes aux yeux. Donc, c'était vraiment comme ça. Mais après, il y a, avec ses bêtises, Rémi Martin, il y avait avec un peu son aplomb américain, un peu américain, un peu français, il y avait. Mike James, d'ailleurs, avec sa manière un peu particulière, on dirait, au style Pichot, Diego, il était un peu sur le truc, parce qu'il contrôlait, il se permettait, mais il ne permettait pas. Voilà, donc il y avait des choses comme ça. Après, il y avait Dominici, qui est bon, derrière lui, grand charisme, grande capacité, mais capable aussi d'énerver les gens, comme de changer complètement l'humeur d'un coéquipier derrière ça. Donc, il y avait vraiment une sacrée équipe. Il y avait aussi des anciens joueurs qui étaient entraîneurs. On va penser à Landreau, par exemple. Lui aussi, quand il y avait affaire, quand il y avait affaire du bordel, c'était le premier, quoi. Donc, voilà. Donc, et c'était quelque chose de très important. Sans oublier Max Guadini, que bien évidemment, quand il y avait à chanter, c'est lui qui commençait le truc et toute l'équipe le suivait. Donc, voilà. On peut pas oublier non plus Raphaël Poulain, quoi, parce que après toute sa période particulière, au départ, je dis, oh, mais il est bizarre, ce mec. Je comprends très bien, mais en réalité, c'était une façon. Je dis pas parce que c'était là, Raph, mais je te suis dans tes trucs sur cette année. Et je trouve qu'il avait encore à l'époque une humeur particulière qui était capable de. Moi, je ne comprenais pas tout de suite, bien évidemment, un peu pour la langue, pas aussi, mais après, j'ai appris à le comprendre. C'était d'une façon, d'un bon langage, on va dire noble. Quasi noble, j'étais capable de te faire rire quand même. Donc, en parlant bien, sans tâcher particulièrement, sans faire des choses particulières. Voilà,
Non,
donc,
toi, tu vois, tu sais quoi, je vais
c'était.
prendre comme un compliment, voilà, en tant que
Bah,
conférencier.
c'est un
Oui, je
compliment,
prends. Mais
c'est
oui, je
vraiment un
prends.
compliment. Parce que ce que tu es aujourd'hui et ce que tu as créé dans les derniers 10 ans, c'est parce que tu étais comme ça, Raph.
C'est pas de la flatterie,
C'est
c'est pas de la
connu.
flatterie.
C'est
Non,
connu.
j'entends,
Non,
j'entends.
non, non, c'est connu.
Hey, Raph, tu voulais absolument parler d'un dernier
Oui,
épisode
ben
quand même avec
justement, on en a
Mauro.
parlé dans l'introduction. Merci de me le rappeler, justement, Arnaud. Ce poste de demi de mêlée, comment ça s'est passé? Déjà, l'annonce, comment on te l'a annoncé? Comment ça s'est passé sur le terrain? Nous, on a vu de l'extérieur, mais je voudrais savoir comment toi, tu l'as vécu en tant que joueur et en tant qu'homme aussi.
Juste en rappel, hein, c'était tournoi 2009,
Voilà.
Italie-Angleterre, et Nick Mallett,
Non,
alors
Angleterre,
sélectionneur
Italie.
d'Italie, ouais, voilà, Nick Mallett qui décide de te
Bon, c'était
positionner à
juste.
la mêlée.
Mais c'est juste passé que il y avait pas mal
De joueurs blessés.
comment dire, des joueurs blessés, voilà, pas mal de blessés à l'époque, un demi de mêlée. Donc au bout d'un moment, je suis dans ma chambre, on était avec l'équipe, un moment tranquille, matin libre, j'étais avec mon ordinateur et il rentre le staff technique, c'était Nick et Tonton à l'époque, et il dit on a une proposition à te faire. Moi, j'étais en caleçon sur mon lit, et donc je les écoute. Je dis, dites-moi, je suis à disposition. Je pense que tu vas jouer numéro 9 contre l'Angleterre. Vous êtes sûr? Oui, on est sûr. Et j'ai posé la même question, vous êtes sûr pendant 7 fois. 7 fois, j'ai dit, vous êtes sûr? Cette fois, ils m'ont dit, oui, on est sûr. En plus, ma lettre me dit, je pense que je peux te rallonger la carrière. Et je dis, OK, d'accord, on va le faire. Donc, il y avait 15 jours à ce match-là. Donc, pendant 15 jours, j'ai fait au moins, peut-être autour de 1000 passes par jour avec Alessandro. Et le vendredi avant le match, j'avais encore mal aux fesses. Mal aux fesses pour le fait de rester très blessé, voilà, machin. C'est vrai qu'aussi, il n'y avait pas trop de confiance de la part de l'équipe à ce moment-là. Parce qu'il dit, mais attends, t'es sûr, hein? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Il y a besoin, je le fais. C'est tout. C'est vrai qu'on est arrivé au samedi où il y avait pas mal d'expectatives. Pas vraiment sur moi, quand sur l'Angleterre, comment on réagit à ce truc. Ben, ils ont réagi très bien. Donc, ils ont mis beaucoup de pression sur la Et en réalité, j'ai regardé plusieurs fois cette 40 minutes. Et en réalité, c'était trois les passes vraiment dégueulasses, on va dire, entre nous. Et
Non, nous passe tous les 20 minutes, 25 minutes, on va dire, en grosso modo. Et en réalité, je suis rentré sous le vestiaire en pleurant. Et Nick Mallette me dit, tu veux rentrer en troisième ligne? Non, laisse-moi dehors.
voilà.
T'es
On
rentré
va
chez
dire que
toi.
le lendemain,
bon, je marchais. Bon, j'avais sur de l'équipe d'Italie, bien évidemment. Moi, j'ai aussi le bonnet, je ne porte jamais. Bonnet, j'avais le truc très haut pour me faire reconnaître à droite, à gauche. Bon, il y avait que nous hein, et les journalistes à l'aéroport le lendemain, donc il n'y avait pas beaucoup à se cacher. Derrière à ça, il y a un journaliste italien qui m'amène, donc c'était la bonne nouvelle de la journée. Il m'amène le Times, il y avait les notes des joueurs, et sous la mienne, il y avait marqué. Qui pouvait pas me évaluer sur le numéro 9 parce que c'était pas mon poste. Non, mais moi je l'ai pris positif dans le sens que j'ai pas pris une mauvaise note, mais les gens ils ont dit il s'est donné à la cause et pour cette raison on peut pas lui donner on peut pas lui donner une note. Et donc voilà, j'ai fait le premier respire depuis 24 heures. Et là, je suis reparti, voilà, pour la prochaine, pour la suivante. Oh, ce sera à mon avis le mot de la fin, Mauro. Tu t'es donné pour la cause. Et je pense que si j'avais à résumer ta carrière et surtout ce qu'on a vécu au Stade français, c'est ça. C'est que tu as donné ton corps et ta tête et tes émotions pour l'intérêt supérieur du Stade français et du rugby. Je me trompe?
Non, mais
Pas
moi, c'est
calculé, je pense. Il n'y avait pas de
exact.
calcul en fait.
Non, mais c'est exactement ça. Je pense quand il y a une passion et au-delà du fait qu'il vienne un boulot, parce qu'en fait, on était professionnel, on va dire, on travaillait, c'était notre travail. Mais je constate aujourd'hui, surtout le boulot que j'ai fait à fin de carrière, revisiter toutes les relations humaines de façon, on va dire, pour mon boulot, parce que je fais aujourd'hui, je pense que oui, il y a pas de question de calculer quoi donner et quoi ne pas donner quand tu es aussi dans une ambiance, un secteur comme celui du sport, du rugby. Mais je pense dans tous les domaines, je pense que c'est comme ça. Franchement, je pense de n'avoir jamais refusé de faire quelque chose. Au moins que physiquement, effectivement, je pouvais pas le faire ou pour autre raison, mais il y a vraiment très peu de situations dans lesquelles j'ai dû décliner l'invitation. Eh bien, ce sera le mot de la fin, et ça, je crois, ressemble fortement au Mauro Bergamasco qu'on a connu au Stade français pendant ces 8 belles années, marquées par deux titres de champion de France. Mauro, c'était un grand, grand plaisir pour Raphaël et pour moi de te recevoir aujourd'hui, en espérant peut-être te croiser samedi au Stade olympique à Rome, dimanche d'ailleurs, pardon.
Dimanche,
Dimanche,
oui.
match à 16 h entre l'Italie et la France, et nous, Raph, on va poursuivre avec la troisième partie de Poulain Rafut.
Absolument, merci beaucoup Mauro. Et dis-toi juste pour conclure, rendez-vous Stade français contre Lyon. On fête les 20 ans du titre Stade français, donc mets ça dans un coin de la tête. Je pense que tu vas recevoir une invitation et ce sera l'occasion de continuer à se remémorer nos beaux souvenirs. Merci à toi Mauro,
Avec
vraiment.
plaisir, merci à vous, c'était vraiment un grand plaisir.
Allez, troisième partie dans Poulain Rafut, Raph, puisqu'il a été beaucoup question de l'Italie hein, dans ce podcast, on va y rester, mais pour une sale affaire, Ivan Nemer a été suspendu par la fédération italienne jusqu'à la fin de la saison. La raison, le pilier international de Trévis, qui compte 11 sélections, dont les dernières en novembre 2002, lors de la tournée d'automne, a été sanctionné pour avoir offert à son coéquipier Chérif Traoré, d'origine guinéenne, une banane pourrie en guise de cadeau de Noël. Un cadeau anonyme. Traoré, qui est lui aussi international italien, avait dénoncé ce geste raciste sur son compte Instagram. C'était le 21 décembre dernier. Depuis, la FIR a agi. Elle a donc décidé de suspendre le joueur. Et tu voulais évidemment évoquer le sujet, Raph.
Oui, oui, mais c'est comme l'homophobie. Je pense que le rugby fut un temps était un sport de privilégiés, peut-être aussi de blanc, et il s'est popularisé, et force est de constater qu'avec l'évolution des mentalités de la société, ben on peut plus, voilà, on peut plus avoir ce genre de comportement. Le foot avait, voilà, les supporters de foot avaient balancé des bananes sur le terrain. Combien de fois on a entendu dans les vestiaires, on n'est pas des PD. Combien de fois on a entendu aussi dans les vestiaires, les bouts de charbon, les machins, les trucs, et je l'ai entendu, à la fin des années 90. Les mentalités évoluent, et heureusement, et on en voit de moins en moins, ou en tout cas, ces comportements sont mis en lumière et sont sanctionnés, et c'est tout bénef, en tout cas pour l'image du rugby, qui ne peut pas tolérer ce genre de comportement. Du racisme, bien sûr, qu'il y en a, et pas que dans le rugby, voilà, c'est sociétal. J'ai eu, moi, la chance de pouvoir échanger avec des potes de confession musulmane ou des blacks, et on a toujours entendu, en amateur ou en pro, ce genre de petites réflexions, ce genre de petites attitudes. Il y en a de moins en moins, tant mieux, et il faut absolument les sanctionner, les dénoncer, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, donc bien sûr, et la Ligue fait un énorme travail justement sur toute forme de voilà contre toute forme de discrimination. Il faut leur rendre hommage, et le rugby se doit justement de dénoncer ce genre de comportement. Donc sanctionné à juste titre, et c'est tout à fait normal.
Et pour information, Ivan Nemer, le pilier d'origine argentine, a renoncé à faire appel de cette sanction. Allez, Raph, pour conclure, un petit coup de cœur. L'ex-pilier néo-zélandais passé par Biarritz, Campbell Johnston, a révélé lors d'une interview télévisée son homosexualité. Une première pour un joueur All Black. Il a déclaré vouloir ouvrir la voie à d'autres joueurs vivant pareille situation. Et tu tenais surtout à saluer son courage.
Oui, et puis je pense que ça contrecarre à ce qu'on vient de raconter sur le racisme en Italie. Je trouve qu'il fallait finir sur une note positive après ces longs discours de Mauro Bergamasco. Je rappelle justement les actions menées par la Ligue nationale de rugby, la lutte contre l'homophobie, le rugby, combien de fois, et je le répète, on a entendu, on n'est pas des PD dans les vestiaires, on l'a entendu, toi et moi, Arnaud, aujourd'hui, on l'entend de moins en moins, et c'est important. Et souviens-toi, c'était Gareth Thomas qui avait fait son coming out, c'était d'ailleurs le seul rugbyman connu qui avait fait son coming out, le Gallois, et aujourd'hui, un Néo-Zélandais. Quel symbole, en fait, de savoir que c'est l'une des meilleures nations, voire la meilleure nation du monde sur ces 20 dernières années que le rugby pro connaît. Et que ce coming out arrive de la part aussi d'un pilier, tu vois, symboliquement, tu vois, ces joueurs qui jouent devant aussi. C'est, je trouve ça très très fort, je trouve ça hyper courageux, et en espérant qu'il ouvre la voie à d'autres rugbymen, parce qu'il doit y en avoir. Et c'est marrant parce que hier, pour l'anecdote, j'ai répondu à une femme qui a écrit un bouquin sur la masculinité, et elle me disait, mais alors l'homosexualité dans le rugby, je dis, il doit y en avoir. Bien sûr qu'il y en a, mais parlons-en. Ouvrons le débat là-dessus, parce que je pense que les homosexuels, à la différence de nous, les hétérosexuels, ils ont cet accès à cette vulnérabilité, à cette sensibilité que nous, on réfrène en tant qu'hommes hétéros. Et je pense que le jour où on y aura accès, sans obligatoirement changer d'orientation sexuelle, et on pourra se révolutionner, hein, donc j'en suis persuadé.
En attendant, les deux ouvrent la porte. Je rappelle au passage qu'on avait reçu Jérémy Tlamy-Herdou, un jeune pilier de Rouen, également, qui avait fait son coming out. On l'avait reçu dans Poulard Affute l'an dernier.
Pour moi, très honnêtement, c'est la révolution du monde moderne aussi. Alors, on est un petit peu perdu aussi parfois, parce que tu dis, c'est un papa, une maman, c'est un truc, un machin. Mais en fait, tous ces clichés un peu patriarcaux sont en train d'être déstructurés. Ça déstabilise une génération, comme la mienne aussi. Mais en attendant, qui sommes-nous aujourd'hui pour juger l'autre? Rappelons que l'homosexualité n'est pas une tare, mais juste une différence, Arnaud. Voilà.
Quel joli mot de la fin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Poulard Affute, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Évidemment, toujours avec le sourire, toujours avec Raph et toujours avec Adrien Yo aux manettes.
Merci beaucoup, Arnaud. À la semaine prochaine. Très bon week-end rugby et très bon début de tournoi à toutes et à tous. Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.